RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
Il est beau, il est chaud.
C'est François Colombani en direct sur les 80 passés de la bande FM.
Anto, comment ça va?
Et toi?
Chers auditeurs, bonjour. Eh ben, ça va très bien. J'ai été mis vraiment très bien là, avec cette petite musique d'ambiance que tu nous as mis avant. Bien. J'avais envie de mettre des chandelles à la cannelle. J'avais envie de chiller. Aujourd'hui, 29
pas de
mars.
Chier.
Aujourd'hui 29 mars, alors il y a toujours la petite rubrique, qu'est-ce qui s'est passé un 29 mars dans l'histoire de l'humanité? Donc aujourd'hui c'est la Sainte Gladys, et à la Sainte Gladys, les arbres fleurissent, dit le dicton. Donc un petit commentaire, un jeu de mots, histoire de tomber sous les foudres de MeToo. Non, personne. Ok, donc j'ai relevé quelques dates. En 1943, un 29 mars, il y a eu la naissance de Vangelis, ça pourra un chariot de feu, tout ça. En 67, il y a la naissance de Nathalie Cardone. Je me souviens, cette chanteuse improbable qui chantait Che Guevara dans un clip très, très, muy caliente. En 72, ABBA enregistre son premier single. ABBA, hein, tu maîtrises, hein, c'est ta cam. Et en 91, naissance du champion du monde, N'Golo Kanté. Donc, aujourd'hui, je reçois deux personnes issues du monde musical. Je reçois Marc Costa qui va nous parler un petit peu de son parcours. Et ensuite, je vais recevoir Joris Agostini qui va nous parler un petit peu de cet événement qui a eu lieu à Calvi, à la Tour de Sèle, jeudi dernier, à l'occasion de son anniversaire. Avant de passer au vif du sujet, suite à la réception d'une lettre, j'ai décidé de créer une nouvelle rubrique dans l'émission. C'est le courrier des auditeurs. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez en me contactant par Facebook, Insta, SMS, mail, pigeon voyageur, n'hésitez pas. Alors là, j'ai reçu, Anto, ça peut peut-être t'intéresser aussi, c'est un CV, une lettre de motivation. Un certain Pierre M, consultant sportif sur une chaîne cryptée.
Alors, que tu connais bien, tu l'as déjà rencontré. Hein, t'as
effectivement, oui, à Paris. À Paris. Ouais. Subissant une cabale médiatique et victime d'une campagne de misandrie, de la part d'anciennes collègues de travail, je propose mes services à l'ITV Calvez. Un ticket resto, un bon d'achat me suffiront. En ce moment, c'est un peu la hesse. Donc, alors, on va lui répondre non à Pierre Ménès, hein, pour deux choses. Déjà, à l'ITV Calvez, on prendra toujours la défense des femmes, toujours. Et ensuite, ne serait-ce que pour ses positions vis-à-vis du Sporting. Voilà, c'est la deuxième raison pour laquelle on ne répondra pas aux sollicitations de Monsieur Pierre M. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, à nous envoyer vos courriers. Je les retranscrirai ou pas dans l'émission. Ça dépendra de mon humeur. Aujourd'hui, je reçois un ami, un quasi-voisin, un quasi-collègue de travail. Aussi. Puisqu'en saison, on se voit quasiment plus que nos compagnes,
que nos propres familles respectives.
Voilà, un passionné d'art, de culture. Il peut s'esclaffer devant un film d'Enke. Il peut trouver Lars von Trier trop commercial. Alors, c'est un musicien. Mesdames et messieurs, je vous présente Marc Coste. Marc, comment ça va, mon petit chat?
Eh bien, écoute, mais ça va bien. Merci pour l'invitation d'abord, à toi ainsi qu'à Anto et Radio Calvi Citadelle. Et ben ça va, ça va. Écoute, un petit peu fatigué, mais ça va.
Alors, tu vas pas échapper à la règle. Au tout début de l'émission, on demande aux invités les premiers souvenirs calvés, les souvenirs d'enfance et tout. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te vient comme ça au prime abord?
Alors, écoute, si on c'est marrant. Alors, si on reste dans le cadre de la musique, on va dire le souvenir que d'enfance que j'ai. On doit avoir peut-être 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça, et on zone, hein, on s'ennuie un petit peu, on tourne en rond, quoi. Et je crois que si je dis pas de conneries, on est derrière la Tour de Sèle. On est assis sur le phare, là, enfin j'appelle ça le phare, mais c'est l'entrée du port en fait. Et puis on discute. Et à ce moment-là, on a deux copains qui jouent un peu de guitare. Et puis il y en a un qui dit, bon, si on montait un groupe. Évidemment, il y a deux d'entre nous sur les quatre, on n'a jamais touché un instrument de notre vie. Et puis on dit ouais.
Ça pourrait être pas mal.
Ouais, ça peut être pas mal, voilà. Et puis donc du coup, on va partir de là, et finalement on a un petit peu d'un truc où on s'ennuie un petit peu, on tourne un peu en rond, et puis voilà, on va commencer à faire de la musique, à acheter des instruments, essayer d'apprendre à jouer.
Alors voilà. Moi, je me souviens, t'étais un peu aussi, pas en marge, mais c'était à Culture Skate, à Calvi, il y en avait pas beaucoup qui le faisaient, le basket,
ouais.
T'étais pas un footeux, quoi, voilà.
Non,
pas...
mais j'ai joué au foot étant gamin, hein. J'ai joué au foot étant gamin, et puis, il y a un, bon, il
faut, au vu du talent.
au vu du talent, et puis, bon, de toute façon, bah non, bah, chacun suit sa propre voie, quoi, hein. Il y a des, voilà. Après, ouais, peut-être on était un petit peu, frange alternative, enfin, si on peut appeler ça comme ça, ouais. Du coin, quoi. Mais, bon, voilà. C'était...
Alors, la passion de la musique très tôt, on va pas aussi parler de cette passion et de cette collection de dinettes que tu... non, c'est pas vrai.
Oui, c'est ma seconde passion. Mais si, si, si.
La scolarité. Alors, la scolarité, quel type d'élève étais-tu?
Ouf, alors... j'étais un... Alors, tout gamin, j'étais complètement dans la lune. Je crois que j'étais j'étais hors sol, carrément hors sol. Et j'étais bon, j'étais là sans être là, quoi, mais ça va, j'avais une scolarité plus ou moins normale, on va dire, et j'étais pas un élève brillant, hein, pas très brillant. D'ailleurs, bon, ben voilà, c'est pas allé bien loin puisque j'ai fini en BEP. Bon, c'est pas bien ce que je dis. On peut finir en BEP, être brillant et faire des choses très bien. Mais bon, voilà, j'avais pas beaucoup d'ambition en fait. Voilà, je pense que j'avais pas d'ambition. Et si un prof me tapait sur la gueule, au lieu de dire bon, ben ah, pourquoi il me tape sur la gueule, je vais essayer d'être un peu en résistance. Je me braquais et puis c'était terminé, quoi. Bon, c'est pas la bonne solution. Hein. Et du coup, j'ai pas fait beaucoup d'études. Quoi.
Donc toute la scolarité jusqu'au lycée de Balagne. Après.
Oui, oui. Lerousse, Calvi, Lerousse. Stop. Et après, je suis allé bosser après.
Donc les premiers jobs, c'est quoi?
Les premiers jobs. Alors le premier job, bizarrement, c'est la musique en fait. Eh ouais. C'est premier job parce qu'en fait j'ai commencé à gagner mes premiers sous, alors c'était modeste, hein. C'était en faisant des reprises dans des bars en fait avec le groupe de l'époque, et du coup l'été en fait au lieu d'aller bosser je sais pas moi faire tout un tas de trucs voilà que les jeunes font quand ils sont ici, on avait notre petit groupe et puis on allait voir les bars, les machins, tout ça. À l'époque ça se faisait beaucoup, mais un peu moins aujourd'hui. Et on disait voilà, on a un petit groupe, on fait des reprises, machin, là, là, est-ce que vous voulez
Alors du coup, c'était quoi le répertoire
Je sais plus, on essayait d'être un peu à l'époque beaucoup de groupes qui tournaient, c'était des standards, on va dire un peu rock, variété. Alors nous on essayait d'être un peu à côté de ça. Bah en même temps, c'est la musique de notre époque, hein, c'était les années 90, c'était
Nirvana.
Nirvana, des groupes comme Pearl Jam, Alice in Chains, des trucs un peu de la vague de Seattle entre autres, même si de temps en temps on faisait un bon vieux téléphone aussi. Bon voilà, il fallait faire plaisir à chacun dans un groupe, voilà, il faut que ça soit un peu démocratique. Donc il y a celui qui arrivait avec son Queen, celui qui arrivait avec son téléphone, celui qui arrivait avec, bon voilà. Du coup, on faisait un espèce de petit melting pot, quoi, de ça, voilà.
Ensuite,
après des petits boulots à droite à gauche, machin, très vite débarqué à l'aéroport de Calvi en tant que manutentionnaire, où j'ai fait beaucoup de saisons. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été agent municipal aussi. qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai besoin de toutes les. Si tu veux tout.
Non. Aujourd'hui, donc, on pourra dire que Casavia.
Oui, Casavia. L'aéroport, Casavia.
Ah, l'aéroport. Ce fameux aéroport. d'ailleurs, on peut rebondir un petit peu sur cette pandémie qui a foutu en l'air non seulement, peut-être on en parlera plus tard, tes envies de live, mais aussi qui a impacté le boulot. Comment tu l'as vécu cette pandémie, parce qu'on vient de sonner les 1 an, souffler les 1 an.
Alors à quel niveau tu parles, au niveau du travail?
Au niveau du travail, même perso.
Écoute, ça devient un petit peu long. Bon, après on est obligé de faire avec, quoi. Tu peux pas ça fait chier tout le monde, mais c'est comme ça. Au niveau du boulot, c'est pas forcément évident. Bon, l'aéroport, tout ça, bon, on connaît. On va pas, je vais pas rentrer dans les détails, hein. C'est pas simple. Mais et puis ensuite, au niveau musical, ça a mis un frein net à toute forme de prestation live. Ça nous a pas empêché d'essayer de répéter, de faire des choses, de programmer des choses. Alors évidemment, avec pas du tout de visibilité sur ce qui va se passer. On a eu un concert avec le projet Son de Fort Bartholomé, donc qui est une lecture concert, et on est 4 dessus, donc il y a mon acolyte Pierre Saval, Stéphane Ouchez, Harry et Charlie Martinet qui sont là à lecture. On devait jouer au théâtre de Bastia, donc ça a été reporté une première fois. une seconde fois, et là on va être à la troisième fois, donc on attend des nouvelles, mais ça commence à être compliqué. On avait un festival là à Porto Vecchio qui s'est aussi reporté, je pense, ça sent pas très bon pour le mois d'avril. Donc voilà, tout est très compliqué. Donc bon, ben écoute, on fait avec et voilà. Moi après, on va dire nous on n'est pas les plus à plaindre parce que on vit pas directement de la musique, donc. Mm-mm. Bon, voilà. Après, les intermittents et tous les gens qui travaillent dans le milieu du spectacle, qui sont voilà, qui sont complètement dépendants de ça, pour eux, c'est évidemment beaucoup plus compliqué.
Alors, tu as toujours été un petit peu, alors je vais pas dire impliqué, mais tourné autour un peu de ce monde associatif culturel, celui un petit peu des écharpes et des discours. Donc. Quand est-ce que se fait le déclic véritablement où tu te dis allez je vais vraiment prendre tout mon temps libre pour me plonger dans la musique? Est-ce qu'il y a un moment de déclic?
Ça a toujours été un petit peu là.
Ça a toujours été le cas, parce qu'il y a un moment où ça a pris le dessus.
Ben, en fait, il y a un moment où ça devient beaucoup plus sérieux en fait. Alors j'aime pas trop les termes de professionnalisme, semi-professionnalisme. Bon, on dit que t'es professionnel en fait à partir du moment où tu vis en fait de ton art quoi. Mais bon, après on peut faire les choses de manière tout à fait professionnelle. Sans faire ça à plein temps, alors je me suis mis à faire des trucs tout seul en fait dans mon coin, à acheter du matériel il y a une dizaine d'années, et il y a je crois de ça 4-5 ans, je reçois un message en fait de Pierre Gambini. Donc Pierre Gambini, qu'on ne présente plus, hein.
Ben on va peut-être un petit peu le faire parce qu'il n'y a pas tout le monde à la radio qui sait.
Alors Pierre Gambini est un musicien insulaire. Qui a fait des albums en son nom et qui a notamment fait la bande originale pour cette série que tout le monde a bien connue et beaucoup de Corses sont également et d'autres ont regardé, c'est Mafiosa. Donc à ce moment-là, il sort son album Bourghese et il cherche des musiciens pour l'accompagner.
Comment ton nom il sort de là? Parce que pas dans le.
J'y viens. Évidemment, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'ils ont, il y a beaucoup de mauvais côtés, mais parfois il y en a des bons. Je l'ai en nom qu'on a mis sur Facebook et je poste des vidéos de temps en temps, des bricoles que je fais en musique. Et il m'envoie tout simplement un mail via Facebook et en me disant voilà, j'ai vu ce que tu fais, est-ce qu'on peut se rencontrer et compagnie. Et je lui dis ben écoute, oui, pourquoi pas. Alors évidemment au début, ne sachant pas exactement ce qu'il allait me demander, je consulte ma compagne en lui disant bon, j'ai Pierre qui m'envoie un truc là, c'est un peu voilà, hein. Elle me dit non mais vas-y et tout, pourquoi tu te poses des questions, rencontre-le. Et puis donc je rencontre Pierre, ça se passe très bien. Et du coup, il me propose donc de l'accompagner sur scène pour des dates de la tournée de Bourghese. Et voilà. Et donc là, je l'accompagne et je rencontre donc par son intermédiaire le musicien avec qui je bosse aujourd'hui au sein de mon groupe Unsound, qui s'appelle Pierre Savali. Voilà. Et à partir de là, en fait, on a commencé à travailler plus sérieusement, à se structurer, à chercher des dates, à proposer des projets divers et variés, etc.
Et donc vient le projet Unsound.
Exact.
Je sais pas si je le prononce bien.
Oui. En fait, si tu veux, ça s'écrit Unsound, effectivement, mais un nom dit Unsound, mais bon, c'est. Ah. Non, mais c'est pas grave. C'est pas très grave.
Mais un coup de pas. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cet univers-là? Qui c'est qui bosse dessus? Et parce que c'est un petit peu particulier, voilà. C'est pas un truc.
Oui, c'est pas les canons de la pop, on va dire. Alors c'est un projet. C'est un duo donc il y a donc mon acolyte Pierre Savali et moi-même. On est tous les deux un petit peu multi-instrumentistes et on fait une musique, on va dire, qui se situe entre la musique électronique, le drone, l'ambient. Enfin, tous les deux, on a des univers divers et variés personnellement qu'on essaie un peu de mettre en commun au sein de cette formation musicale. Très vite en fait on a monté une lecture concert qui s'appelle Sound for Bartolomeo et qui est en fait qui s'appuie sur un texte de recueil de poésie de Stefano Chiesa. Et donc on a extrait en fait 13 chapitres de ce recueil et qu'on a mis en musique et donc en live. Donc il y a donc effectivement notre duo Unsound qui accompagne donc Stefano Chiesa à la lecture en Corse. Et Charlie Martinet qui fait la lecture en français. Le texte est interprété dans les deux langues.
Alors là, je vais peut-être c'est pas un gros mot, j'espère. C'est plutôt alternatif entre guillemets. Comment c'est réceptionné par les gens? Parce que je sais que tu as été dans des
centres
culturels un petit peu éloignés.
Alors on a joué à la Fabrique de théâtre à Bastia, on a joué à l'Adi à Ajaccio, on a joué à Ghisonaccia, enfin à Cardiff, hein, puis on a encore des dates prévues, on a fait un passage télé aussi sur Viasté là. On est content de la réception. Les gens qui viennent nous voir sont la plupart. Bon, y a peut-être des gens qui aiment pas, qui ne le disent pas.
Oui, mais est-ce que c'est quoi? C'est les gens qui viennent par curiosité.
Alors, évidemment, souvent par curiosité, puisque ben on n'a pas une visibilité, on n'est pas connu, quoi. Donc les gens viennent un petit peu par curiosité. On essaie de communiquer un peu via ce qui est à nos dispositions, réseaux sociaux, etc. Quand on joue dans une salle, et ben la salle fait la promo forcément du spectacle et des abonnés, etc. Et c'est plutôt bien reçu puisqu'on a des retours qui sont positifs et même parfois des choses un peu étonnantes puisque parfois à la fin du spectacle donc une personne vient te voir et te dit ah c'est marrant, c'était super, j'ai voyagé pendant 1h30, enfin 1h30 un petit peu moins, pourtant c'est pas du tout mon univers musical, etc. Et puis bon, donc quand t'arrives à emporter les gens comme ça, ben c'est plutôt c'est une belle satisfaction, quoi.
Est-ce qu'il va y avoir un enregistrement physique?
Alors, c'est en cours, on est un petit peu tardé, on aurait dû justement profiter un petit peu de cette pandémie pour avancer un petit peu là-dessus. Alors oui, c'est en cours, on va enregistrer et on est en train de monter tout ce qu'il faut pour faire ça dans de bonnes conditions. Et
ce sera sur quel support?
Alors, je pense qu'on fera du vinyle. Voilà. Je pense qu'il y aura du digital et du vinyle. S'il faut faire du CD, on en fera un peu. Bon, ça sortira pas évidemment à 100 000 exemplaires. Mais on essaiera de faire un truc, l'objet est important pour nous sur ce truc-là. On essaiera de faire quelque chose de bien, quoi. Alors, qui a du sens, quoi.
Il y a aussi un EP qui est dans les tuyaux.
Alors, ouais. Alors l'EP, c'est moi tout seul. Bah en fait moi je fais de la musique sur trois formes en fait, donc sur la forme de un sound avec Pierre Savall, sous mon nom propre et pour certains projets, par exemple là j'ai collaboré avec un artiste qui s'appelle Sensio qui m'a demandé de travailler sur la production d'un interlude, donc du coup ça c'est en mon nom propre et aussi sur une pièce de théâtre qui est en cours de création, qui est une adaptation du roman Corsican Way of Life de Joseph Anthony.
Donc c'est signé Marco Coste. T'as pas de nom de scène.
Marco Coste. Non, j'ai pas de nom. C'est pas de petit nom de scène.
On va travailler là-dessus.
Et ensuite j'ai une autre formation où là je suis tout seul qui s'appelle North Frequency Canal et qui est en fait qui sort sur un label qu'on a monté en fait. Même si tout le mérite revient à Pasqua Pancradi qui est la personne qui s'en occupe, et l'ami qui s'en occupe, qui s'appelle Lake of Confidence. Et donc là-dessus je normalement devrait sortir, si tout va bien, cette EP en octobre novembre.
Donc là c'est sur les projets perso et avec ce label il y a une autre personne à Calvi qui est associée.
Alors exact.
Qu'on va avoir. Moi je l'attends avec une impatience non dissimulée. Donc
oui, donc alors avec ce petit label qu'on a monté, donc Lake of Confidence, qui a déjà du coup en un an là d'existence, qui a un peu finalement démarré lors du début du confinement en fait, il y a un an. On a fait pas mal de choses puisqu'on a sorti donc un EP de Valédiction qui est un projet de Pasqua Pancrase qui est en ligne, qui est écoutable et téléchargeable et achetable.
Ouais.
Pas hashtag sur le Bandcamp. On a eu une signature dont on était très content, qui est un projet qui s'appelle Mar, qui est le projet de Grégoire Oriot et Julien Magot. Pour la petite anecdote, Grégoire est un vidéaste qui travaille avec une grosse partie de la scène alternative, enfin que moi j'aime beaucoup, avec des artistes comme Munkoff, Oiseau Tempête, etc. Et qui sont venus vers nous, on s'y attendait pas du tout, et on était très contents de ça. Et Mar est un très beau projet, c'est un album en quatre pièces, en fait quatre tableaux, et sur lesquels il y a de la vidéo. Donc voilà, et avec la voix du cinéaste Joan Mécas. Et on est très content de les avoir. On espère qu'on pourra leur proposer très rapidement une sortie physique à eux aussi. Et ensuite, on a mis en place, pour promouvoir un peu des gens qui avaient envie de faire des choses, et là, c'est un téléchargement gratuit aussi, une sorte de track mensuel, en fait, qui s'appelle Oxydane. Et là, on est déjà au cinquième. Donc voilà, 5 artistes différents pour l'instant, et d'autres sont à venir, qui feront, je pense, à terme l'objet d'une compilation, en fait. Voilà. Et pour venir à la personne dont tu parlais, je suis obligé de rester un petit peu.
Oui, parce qu'elle viendra en parler. Elle viendra en parler, puisque.
Elle viendra en parler.
C'est supplié. Le terme exact, c'est supplié. Je l'ai supplié de venir faire l'émission.
C'est Stéphanie Tchekal, voilà, qui s'apprête à sortir quelque chose de super super sur le label. Et là, ça sera du physique. Mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais ça arrive très vite.
On va aborder dans l'émission, tu le sais, il y a les questions qui fâchent. Alors il y a toujours une petite musique d'ambiance pour. Alors créneau de musique particulier. Est-ce que l'objectif c'est d'en vivre à un moment donné ou sinon tu vas faire. Moi je me souviens quand j'étais à Toulon à la fac, il y avait un type qui s'appelait Paco, mais c'était un rasta blanc et il jouait de la gratte dans un parc municipal. Tu vois, il avait l'impression d'être très subversif en jouant No Woman No Cry, tu vois.
Il était peut-être.
Donc, est-ce qu'à l'objectif, est-ce qu'à dans un objectif proche, il y a cette volonté finalement d'en vivre.
Alors c'est hyper compliqué. Alors oui, bien sûr que si je pouvais le faire, je le ferais. Mais après, il faut être réaliste. Hein. Moi maintenant, j'ai bientôt 42 balais.
Un enfant.
Et non, je suis sans enfant. J'ai des
non, chars. Non, mais un enfant, ça tue un enfant.
Ah, oui, je suis un enfant. Oui, à 40 ans aujourd'hui, on a un enfulte, comme on dit. Un mélange d'enfant et d'adulte. Et mais si je pouvais, je le ferais. Mais non, on ne sait pas où ça va nous mener. Mais après, c'est pas forcément.
C'est pas la finalité du truc.
C'est pas la finalité, voilà. Si ça se fait un jour, tant mieux. Je sais pas si ça pourra se faire. Mais non, comme je te disais tout à l'heure, que ça soit dans ma démarche personnelle ou avec Unsound ou avec tous les projets qu'on a. C'est vraiment de proposer quelque chose d'un point de vue artistique et puis que ça soit fait de la meilleure façon qui soit, la plus professionnelle possible. Et voilà quoi.
Alors, deuxième question qui fâche, tu.
Il y a beaucoup des questions qui fâchent.
Il y en a trois.
Non, elle était pas fâcheuse.
Moi je me souviens, tu viens du hard rock.
Il va falloir que tu montes un cran. Hein.
Tu viens du hard rock, Sepultura, Iron Maiden, je me souviens, t-shirts un peu horribles qu'on a achetés dans la. Dans la rue Clémenceau, il me semble, vers chez Albini,
il faut quand même souligner un truc, c'est qu'à Calvi, pendant de très nombreuses années, on a eu quand même une chance extraordinaire, c'est qu'on avait le Black and Blue, ouais. Qui était le magasin de musique de Paul Orsigne, et que je salue au passage, et Paul avait vraiment, vraiment, pour une petite ville pour Calvi, énormément de choix, en fait, en termes musicaux. Et c'est en partie grâce à ça que j'ai fait mes armes. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de streaming, tout ça. On est très, très, très loin de ça. C'était encore des cassettes. J'ai connu les cassettes, moi. Je ne sais pas si les gens ont connu les cassettes.
Avec le stylo pour les remonter.
Et ça ressort, vous avez vu?
Ça ressort.
Ouais, mais il y a beaucoup de labels, hein, maintenant, qui font encore de la cassette. Alors, Thierry n'a pas beaucoup d'exemplaires, mais. Et Paul, effectivement, parfois, avait des t-shirts de groupes, et souvent des groupes de métal, ouais.
Ouais. Donc, ouais. Ce que tu fais en ce moment, c'est un petit peu le grand écart. Alors des fois, on entend des bruits de rivière, des bruits de cailloux qui se frappent et tout. Comment tu expliques ce grand écart ?
Ben, c'est pas un grand écart en fait. En fait, c'est pas du tout un grand écart musical parce que, en fait, ma vision de la musique, c'est que tout est interconnecté en réalité. Et après, on crée des cases parce qu'on fait rentrer des artistes dans la variété, dans la pop, dans le métal, dans j'en sais rien, dans le hip-hop, dans le jazz, voilà. Mais on est arrivé à un moment donné de la vie, je pense, où tous les croisements sont possibles. Et moi, j'ai toujours aimé finalement les groupes que j'ai, enfin les formations musicales que j'ai le plus aimé, c'est souvent des gens qui croisent des univers. Et on peut très bien trouver ce que tu parlais on tape sur des cailloux, du field recording, des choses enregistrées comme ça, ou des bruits de nature, etc. Ou on mélangeait ça avec des guitares de métal et pourquoi pas une ligne de basse de jazz, j'en sais rien, enfin voilà.
Et ça t'ennuie pas... un petit peu cette catégorisation ou tu luttes contre ou finalement c'est le jeu, fait de dire c'est alternatif, c'est
ben, là. Tu sais, après, c'est des trucs de journaleux.
Ça réduit pas un petit peu, au fait, finalement, ce que tu essaies de proposer?
Non, parce que, enfin, c'est des trucs de journaleux. À un moment donné, les gens ont besoin quand même de se situer, quoi. À un moment donné, si tu recherches un artiste, voilà, ben, il y a besoin d'avoir quelque chose qui va t'a, si tu fais du hip-hop, ben, t'es obligé à un moment donné d'avoir quelque chose qui guide, hein, même, un petit peu là où tu veux aller chercher quelque chose, hein, hip-hop ou jazz, j'en sais rien. Mais après, comment dire, moi je m'en fous, hein, enfin, on rentre dans des cases sans rentrer dans des cases, en fait. Ce qui est important, c'est d'inviter les gens à écouter des choses, de découvrir des nouvelles choses, et après ils mettent ce qu'ils veulent derrière. Si eux estiment qu'ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin de mettre un nom derrière le type de musique qu'ils écoutent, on s'en fout. Enfin, c'est pas, moi je m'en fous.
Les objectifs à venir, bon, on est bien sûr tous conscients qu'il y a cette pandémie qui ralentit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un autre projet qui est déjà en cours? Qu'est-ce qui va venir là?
Eh ben, bon, déjà, on aimerait évidemment au plus vite pouvoir remonter sur scène, que ça soit avec un sound ou que ça soit même pour organiser des choses avec le Lake of Confidence.
Vous arrivez à sortir un petit peu des frontières insulaires? Ce projet-là a eu des
retentissements de l'autre côté. Pas encore. On prend notre temps. Ben ça va un petit peu comme on peut. C'est évidemment pas toujours facile à organiser puisqu'on n'est pas à plein temps là-dessus. On espère que ça se fera. Si on a des propositions, si on arrive à dégoter des dates à l'extérieur, on le fera. On se l'interdit pas, au contraire. Et mais pour l'instant non. En tout cas, ce qui est sûr, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre au niveau sanitaire pour pouvoir reprendre déjà les lives sur l'île. L'enregistrement, comme je te disais tout à l'heure, en cours de Sombre Bartholomé, donc pour le projet. Et puis les sorties qui continuent donc sur Lake of Confidence, en espérant aussi pouvoir bientôt proposer quelque chose en termes humains, en live, une soirée, quelque chose, c'est pas une journée.
Quand tu auras un centre culturel à Calvi.
Alors voilà. Alors on arrive à jouer dans pas mal d'endroits et pas beaucoup en Balagne. C'est un peu plus compliqué et
ce serait cool. On lance l'appel.
Bon, apparemment c'est dans les starting blocks. Hein. Ah. Je sais pas. C'est ce que j'ai entendu dire qu'il y aurait une.
Oui.
Voilà. Bon, un lieu de toute façon c'est il en faut un quoi. Alors on peut faire on peut faire plein de choses sans forcément avoir un lieu dédié. Ça c'est ma conviction perso. D'ailleurs on n'a pas toujours attendu d'avoir un truc pour faire sinon on dirait jamais rien. Mais ça me semble essentiel d'avoir un lieu en Balagne à Calvi ou et pourquoi pas l'île Rousse ou même quelque chose qui serait de l'ordre de l'intercommunalité, je sais pas, ça c'est aux politiques de réfléchir, mais ça devient plus que vital. D'ailleurs, c'est même tragique quelque part qu'en 2021, on n'ait toujours pas de lieu pour pouvoir accueillir et proposer de la culture à Calvi.
On va revenir sur ça va nous permettre de faire le lien.
Ah, involontaire.
Involontaire jusqu'à la dernière question. Après, on passera à mon petit chat, à mon petit Joris. Parler un petit peu de vie de la cité. Tu as été un moment très impliqué dans la vie de la cité, puisque tu faisais partie du collectif La Horde Sauvage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Pourquoi? Comment tu l'as vécu?
Ah, tu nous fais un retour vers le futur, là.
Ouais.
Bah, c'est loin aujourd'hui. Écoute, si je dois garder un truc de ça, c'est qu'on a beaucoup rigolé. Voilà. On a beaucoup rigolé et même si des fois il y avait des raisons de pas rire mais on a beaucoup rigolé. Je n'en ai absolument aucun regret. Je suis très content qu'on l'ait fait, même s'il y a des choses aujourd'hui
que t'assumes peut-être moins.
Non, pas du tout. J'assume tout complètement. Même les blagues nulles, on peut le dire. Hein? Les Calvi Ville de la Bite, les images de oui avec à la mairie de Calvi, on vous dira toujours oui. On assume complètement. Je pense que mes acolytes de l'époque assument aussi complètement. Mais c'était tellement balourd en fait que voilà, je sais même pas pourquoi il y a eu tant de à l'époque tant de vexations, tant de crispations autour de ça.
Parce que c'était quoi? Vous aviez 20 ans.
Ouais, on avait 20 balais, un peu plus de 20 balais. Mais c'était surtout, en fait, hein, quelque chose pour essayer de bouger, en fait. Pour essayer de dire aux politiques, en fait, de dire, regardez, il faut faire quelque chose, c'était pas pour, en plus, au départ, il y avait pas du tout d'ambition politique, c'était pas ça du tout, quoi. Et c'était vraiment pour essayer de, c'est un peu un cri, en fait, quoi, hein. Et qui a pas été, je pense, entendu. Et bon, même des fois, c'est vrai, on est pas allé que le dos de la cuillère,
ou
mais
au prix à son juste niveau, quoi. Peut-être.
Ben oui. Ben en fait, voilà. Il aurait fallu peut-être juste que les gens en place nous disent, bon les gars, ok, bon, on a bien rigolé, maintenant on va discuter sérieusement. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et ça aurait évité, je pense, bien les désagréments.
Alors à la fin, on finit toujours par une petite question flash. Hein, si tu étais une qualité.
Ça, je m'y attendais pas.
Eh oui. Ah, je vois qu'on écoute, mais on écoute parce que ça, c'est toutes les émissions.
Si oui, non, j'en ai écouté en plus, mais je m'en souviens pas de tout. Si j'étais une qualité, c'est dur ces questions-là. Ouais. C'est les trucs les plus. je serais une pâtisserie. je sais pas.
Un défaut.
Un défaut têtu.
Un animal.
Ouh, alors là c'est mon cœur balance. Ah. Oui. Un raton laveur.
Est-ce que tu es un héros de fiction et un héros de la vie réelle?
Un héros de la vie, ouais, héros, c'est un bien grand mot, mais c'est difficile la notion d'héros quand même. Mais oui, alors un musicien qui est disparu et qui est décédé malheureusement il y a pas si longtemps, qui est Marc Hollis, qui était le chanteur frontman de Tall Talk, et qui est un peu disparu dans l'indifférent, enfin pas l'indifférent général parce que les gens le connaissaient, mais qui a pas eu, je pense, l'hommage qu'il méritait. Et Marc Hollis, son travail déjà avec Tall Talk, même le côté Tall Talk, on fait dire très pop, est déjà très très beau. Mais ensuite, ce qu'il a fait donc après la deuxième période Tall Talk, on va dire, qui est juste magnifique, ce travail sur le silence, cette espèce de en fait de prémisse de ce qu'on appelait le post-rock. Enfin, il y a un truc. Et puis une humilité. Il a disparu. Il a amené quelque chose. Et puis, enfin, c'est un truc très étrange par rapport à comment il s'est retiré après du circuit de la musique et comment finalement il s'est évaporé comme ça. Il y a quelque chose de très beau. Et dans sa musique, il y a quelque chose qui me parle à moi tout de suite. Je dirais que c'est un peu un héros pour moi, ouais, quelque part.
Un héros de fiction.
Un héros de fiction. un héros de fiction. Homer Simpson.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme.
Tout ce qui est de l'ordre du répressif, tout ce qui pourrait asservir les autres. Je suis pour la force de l'émancipation individuelle et collective.
La chose dont tu es le plus fier.
La chose dont je suis le plus fier.
Me connaître.
Peut-être. je sais pas, plein de choses en fait, plein de choses.
Une phobie.
Je suis pas fada des mantes religieuses.
Bon, il y a aussi autre chose. On peut faire des révélations.
Oui.
Une légère propension à l'hypocondrie.
Alors, c'est pas tout à fait vrai.
Parce que j'ai trouvé que t'avais un petit teint un peu pâle ce matin.
Je suis fatigué. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est un mythe, ça. C'est un mythe. C'est un mythe que des gens véhiculent.
Que des gens véhiculent. Ouais. On connaît très bien, d'ailleurs, hein,
Oui, on pourra dire leur nom. Hein.
la dernière fois que tu as pleuré.
Il y a peut-être pas si longtemps, en fait, je crois. Je sais plus à cause de quoi, mais je pleure, ça m'arrive de pleurer, ouais. Peut-être parce que je m'inquiétais peut-être que je pensais que j'allais mourir.
Si tu pouvais revenir en arrière, dernière question, et dire quelque chose à l'enfant qui était à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Si je pouvais revenir en arrière, t'inquiète pas, ça va bien se passer.
On peut entendre dans d'autres circonstances. Alors, Joris. Joris, comment ça va? Joris Agostini, DJ Calvet. Joris Deca, d'ailleurs, on peut savoir pourquoi Joris Deca?
Eh ben, tout simplement pour Joris de Calvi. Parce que je suis d'ici.
Ouais, donc, bah, j'ai cherché, j'ai pas compris, mais voilà. Joris Agostini qui vient, qui nous a fait un petit événement jeudi dernier à l'occasion de son anniversaire. Alors, tout d'abord, comment ça t'est venu?
Eh bien, écoute, ça m'est venu quand je suis rentré de ma saison hivernale en mars 2020, justement quand Macron a décidé de couper tous les accès à la Corse via bateau et avion. Et je suis rentré me confiner avec ma copine. Et il venait de sortir en fait un live sur le groupe Cercle, en fait, qui est un groupe qui fait tourner des DJ un peu partout, dans des endroits vraiment insolites, vraiment magnifiques. Et je regarde ce live et je dis putain, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Tu les vois dans un désert blanc, dans une épave d'avion en Sibérie, enfin tu vois, c'est énorme. Et je me dis, mais avec les endroits qu'on a nous à Calvi ou même en Corse, ça serait énorme qu'on puisse faire ce genre de choses. Du coup me vient cette idée et je décide d'appeler Jean Dauberton et Adrien Georges, justement, pour avoir un minimum de professionnalisme sur le projet. Et à ce moment-là, ils étaient occupés avec justement leur court-métrage, ouais. L'Autostoppeur, qui est vraiment un chef-d'œuvre, qui est excellent. Et je comprends pourquoi ils étaient occupés d'ailleurs, parce que j'ai plus eu de nouvelles, mais c'est légitime. Et du coup, en fait, vu que j'ai pas de nouvelles d'eux, et que la mairie à ce moment-là ne me répond pas favorablement au projet, ils m'avaient dit oui, mais j'avais pas eu les papiers pour, je laisse un peu tomber ça, et je passe mon confinement, puis vient l'été où je recommence un petit peu à travailler, et voilà, l'idée est passée derrière. Et là, pour cet hiver, je suis sur la play avec les copains. Et tout le monde me dit, Joris, c'est pourquoi tu fais pas un live? Franchement, ça serait bien. Regarde Twitch, la plateforme. Regarde les plateformes de réseaux sociaux. De plus en plus de DJ s'y mettent. Pourquoi ne pas le faire? Et je réfléchis et j'ai pas les moyens. Et ça coûte des ronds et machin. Et ce mois-ci, même le mois dernier, en février, je me dis, en fait, on s'en fout des moyens. Si on sollicite les bonnes personnes, je pense qu'on peut y arriver. Donc de là, on commence la démarche à chercher 2-3 caméras par-ci, par-là, demander l'autorisation à la mairie officiellement sur papier, de demander du matériel musical à des commerçants calvés, et de fil en aiguille, ça s'est fait, quoi. Et franchement, c'était super sympa, c'est une vraie belle expérience.
Oui, alors en plus, c'est des projets qui sont un petit peu dans l'air du temps, puisque je crois avoir vu qu'il y avait des DJ aussi insulaires qui avaient lancé un collectif
Un
label Avalon, ouais. Voilà, c'est ça. Et comment tu abordes cette saison, là, sans visibilité, tout ça, comment tu vois les choses, toi? Parce que bon, t'es impacté, il y a pas de soirée, il y a pas de boîte, il y a pas de truc, c'est tout pour toi, quoi.
Là, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'anticiper les choses, je dirais, de voir un peu plus loin. Mais après, il faut garder espoir, comme là on le dit assez souvent.
T'arrives quand même à avoir quelques touches, à avoir quelques trucs en prévision 2.
J'arrive quand même à faire de la visibilité avec la com, les réseaux sociaux, qui sont vraiment très importants dans mon métier, parce que c'est vraiment le visuel qui compte plus que la musique en cette période. Et au-delà de ça, j'ai réussi à garder quelques contacts et quelques dates qui vont me permettre de bouger un peu dans d'autres pays, autres que la France, pour bosser, quoi, parce que sinon...
Après, il y a le nerf de la guerre, financièrement.
Financièrement, c'est compliqué. Financièrement, c'est compliqué. Mais en espérant que cette saison, on revoie le jour.
Peut-être je vais rentrer dans le secret des dieux, mais du coup, comment tu vis là? Tu as les aides gouvernementales, rien du tout.
Aucune aide. Même si je suis auto-entrepreneur, j'ai pas fait assez de chiffres l'an dernier pour pouvoir suivre, pour avoir accès à
ces aides.
Exactement.
En fait.
Donc du coup, je suis chômeur. Voilà.
Ok, d'accord. Donc
de parler les anciens contrats que j'ai eu avant, mais je suis au chômage.
Magnifique.
Magnifique. On se régale. C'est la première fois de ma vie que je suis au chômage pour le confinement.
Oui, parce qu'on va dire que toi, tu es DJ quand même depuis, tiens, quel âge?
J'ai 24 ans.
24 ans, et tu officies depuis combien de temps?
Je suis DJ depuis mes 15-16 ans, mais j'ai vraiment commencé à en vivre depuis que j'ai 19 ans, à peu près, quand j'ai commencé à l'Edenport.
Ouais. D'accord. Donc du coup, là, est-ce que ce petit événement t'a plu au point d'en refaire d'autres? Il y a d'autres choses qui vont venir par la suite, ou finalement c'est un one shot?
Alors, c'est pas un one shot. Au début, je pensais que ça allait être un one shot, et puis j'ai vu les retombées que ça a eu, les messages de soutien,
d'encouragement. Très bel article de Serena sur Corse Matin.
D'ailleurs, que je remercie, parce que j'ai acheté le Corse Matin et j'ai vu, c'était incroyable ce qu'elle a fait, le travail, et les photos d'Olivier Sanchez aussi. Et de par justement les retombées qu'on a eues, les points positifs, tout ça, On a en projet un autre live qui va se passer le mois prochain. Je dis pas quel lieu parce que justement j'essaie de garder à peu près ça secret, mais ça reste en Balagne et ça reste un cadre magnifique. Et on va essayer de faire ça proprement et dans les règles de sanitaire.
Donc du coup, dans le futur, tu veux reproduire ce genre de
oui, parce que déjà c'est une expérience gratifiante déjà pour l'humain, le côté social, parce que on a tous ces réseaux malgré qu'on soit loin, ben ça rapproche les gens, c'est musique, c'est partage. Si on me commente ouais vas-y mets-moi cette musique machin, je peux voir en live si ça peut plaire à d'autres personnes et le faire. Chose que paradoxalement, on n'a pas forcément en boîte, parce que même si on est proche en boîte ou dans les festivals, ben ces gens n'ont pas la même proximité que sur les réseaux. Là, ils peuvent plus se lâcher parce qu'ils sont derrière un écran. Ça leur vient plus naturellement, je trouve.
Est-ce qu'il y aura la possibilité, parce que bon, tu travailles pour des établissements, pour des personnes, la possibilité, si les mesures sanitaires le permettent, de peut-être que ce genre d'événement soit public après?
Oui, je pense. Moi, j'espère, j'aimerais.
Tu tendrais vers ça, tu trouverais ça sympa, par exemple, de mixer à la Tour de Sel et d'avoir 200 personnes en bas qui s'agitent.
Ça serait tout simplement énorme. Mais tant qu'à le faire publiquement, je ferais venir des invités. Je veux pas partager. Enfin, je veux pas être seul moi sur cette scène-là. Si on est à Calvi, dans cet endroit qui est la Tour de Sel, qui est magnifique, c'est pour le partage justement avec tous ces gens. Faire venir des DJ insulaires. Ou même des DJ d'ailleurs qui voient ce qu'on a en Corse comme potentiel, comme rien que comme ouverture musicale, et de montrer à tout ce monde.
Et le monde du DJing, parce que bon, moi je suis déjà. C'est fini. Oui, c'est fini pour moi à ce temps-là. Moi, je me souviens des derniers trucs que j'ai achetés électro, c'est les compiles de Radio FG. Alors, ça date. Comment ça se passe entre vous? Est-ce que c'est vraiment concurrentiel ou il y a quand même une petite... Bon, je pense que la pandémie a peut-être dû rendre le milieu un peu plus solidaire.
Ça a élagué, je pense. Ça a élagué,
ouais. Ouais, ça a coupé un petit peu.
On le voit déjà sur les réseaux, ça a élagué un bon nombre de pseudo-DJ, je dirais, sans vraiment.
Oui, parce qu'il y en a qui s'improvisent à l'arrivée, à l'approche de la saison, il y en a beaucoup qui doivent s'improviser DJ.
Exactement. C'est même un plaisir. Au-delà d'un métier, c'est une passion, c'est de la musique. Comme Marc l'a dit, c'est quelque chose qui se partage, c'est de la musique.
Donc du coup, tu penses que ça a été un mal pour un bien, parce que du coup, ça a un petit peu épuré.
Oui. Justement, à la fin, il restera pas que les vrais, je dirais, mais ceux qui tendent à vraiment faire une carrière là-dedans, ou ceux qui sont vraiment passionnés de la musique. Et autant, je n'y serai plus parce que j'aurais perdu le goût à cause de ces choses-là. Mais à mon avis, ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai que oui, ça, je dirais, élagué un peu.
Et là, ça va être une question commune, parce qu'on a deux générations là.
Trois avec toi.
Oui, trois. comment on fait? Parce que moi, je me pose toujours la question. Moi, j'ai un enfant de 10 ans, donc du coup, j'ai les oreilles qui sont agressées par Maître Gims, tout ça. Parce que je suis obligé un peu de subir ça, et puis en plus d'écouter un petit peu, voilà, d'être à la page et de voir ce qu'il écoute. Comment on fait quand on a 24 ans? 24 ans, t'es encore dans le move et tout ça, mais t'as l'appréhension d'être peut-être dépassé. C'est quoi? C'est écouter beaucoup de musique sur YouTube, sur trucs, pour se tenir au courant, sur les plateformes. Et toi aussi, Marc, comment on fait? Il y a un décrochage où tu essaies quand même de maintenir un petit peu les connaissances?
Joris, tu veux répondre déjà?
Non, vas-y.
Écoute, moi c'est un truc que je me suis jamais posé cette question.
Non?
Non, je m'en fous.
Tiens pas la page?
Je m'en fous de la page. Enfin, moi je m'en fous. Enfin, je veux dire, je m'intéresse à la musique, donc j'en écoute tout le temps. Et voilà. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis complètement... Alors c'est clair, des choses sur lesquelles je suis largué, par exemple. Ça me contrarie pas du tout. Mais par exemple, les trucs très en vogue, en fait. En fait, je suis complètement largué sur les choses qui sont le plus visibles en réalité. Voilà. Ça paraît con, mais c'est pas par dédain ou quoi que ce soit.
Suffisance ou condescendance.
C'est pas, je suis pas là pour faire du prosélytisme, hein, mais je suis largué là-dessus, quoi, par exemple, voilà. Mais c'est pas, je me contrarie pas.
D'accord.
Mais après, je discute, j'entends des fois des trucs, parce que je travaille des fois au boulot avec des jeunes, alors les jeunes me disent, ah, tu connais pas ça, machin, truc, je dis, ah ouais, ok, non, je connais pas, fais voir, écoute. Après, j'écoute, hein, je découvre et voilà. Mais pas
d'a priori, mais pas de recherche, nécessairement.
Après, je peux avoir une opinion, si tu veux, sur, mais là, on va en avoir pour, va falloir faire une émission, on va la rallonger d'une heure, mais. Mais non. Après, c'est peut-être enfin, je suis pas DJ moi. Après, pour Jory, c'est peut-être un d'autres choses, hein, tu vois.
Oui, voilà.
Selon le public qui vise un peu.
Oui, ce, c'est ça.
Voilà, selon c'est d'autres choses peut-être.
Parce que toi, c'est plus compliqué parce que t'as peut-être des établissements qui recherchent certains trucs. Comment tu fais toi? Est-ce que tu as une spécialité dans?
Eh ben après, ça dépend du poste qu'on occupe parce que en étant DJ résident, on se doit de convenir à tout le monde et on doit se fixer à la clientèle. Voilà. Si par exemple on a une clientèle jeune, justement, on va taper dans le top 10 Deezer France ou des trucs comme ça. Après, en termes de recherche, pour moi, en ce moment, je cherche des trucs plus profonds, ce qui vont plus m'animer à moi dans mon style musical, moi qui fais de la house ou de la afro house, et des trucs plus, qui apportent une certaine émotion. Et justement, quand j'ai fait le live à la Tour de Sel, je voulais vraiment montrer aux Calvés qui me suivaient là-dessus que mon style à la base, c'était pas ce qu'on m'avait vu faire. Avant,
t'es obligé de te plier un petit peu aux exigences, hein.
Même si ça me plaît, attention, parce que mon but c'est pas de mettre des musiques qui ne me plaisent pas.
Non, c'est que les gens passent une bonne soirée.
C'est que les gens passent une bonne soirée. Et quand à la fin on me dit, même si on connaît pas mon nom, on me dit oh, DJ, franchement tu m'as régalé, c'est j'ai tout gagné. Et du coup, on est obligé quand même de faire cette recherche là un minimum pour contenter le plus de personnes possible.
Et juste dernière question, est-ce que l'objectif à l'usure c'est peut-être de créer sa propre musique?
Eh oui, ben je travaille dessus, mais c'est très compliqué. Ouais. Vraiment, le métier de DJ et le métier de producteur musical, c'est vraiment très très différent. Déjà, c'est une assiduité énorme parce qu'on doit pas lâcher. J'ai tendance moi sur mon ordinateur à commencer un projet, le garder deux semaines,
ouais, procrastiner,
de dire ouais, c'est énorme, énorme, énorme. Il me vient une idée. Cette idée, je peux pas l'incorporer au projet. Bon, attends, j'ouvre une autre page, je recommence un autre truc, et il y a une trentaine de sons qui attendent. Du coup, ben,
c'est un objectif quelque part d'arriver, de proposer ton propre univers aux gens.
Oui.
Tu vois, si j'en ai encore le temps, ça c'est intéressant parce que du coup, on voit que par exemple, Joris, il est pas sur un truc, figé sur un truc quoi. Voilà, il a la musique qu'il propose donc quand il est dans un contexte défini, en tant que DJ résident, etc. Il a ces trucs qui sont qui le touche plus à lui directement en fait dans un style défini, plus défini, etc. Et ensuite pourquoi pas justement le fait de venir à sa propre création.
Oui, parce que contrairement à lui, t'es peut-être pas plus dans un confort puisque finalement tu fais ce que tu as envie, ça prend pas à la limite sans mesquinerie, tu t'en fous. Tu fais ce qui te fait plaisir.
Nous on fait complètement ce qui nous fait plaisir. Donc
lui il est peut-être plus bridé.
Dans le cadre par exemple, il a lui a très bien dit dans le cadre de résident et c'est normal dans un établissement privé, si les propriétaires ont une attente particulière, il joue le jeu quoi. Mais il y a rien, il fait le truc et c'est tout. Mais il doit avoir aussi, s'il le désire, la possibilité de pouvoir de jouer des choses qui lui pèsent davantage, pas davantage mais qui sont plus alignés avec lui. Et puis à terme même de proposer ses propres créations et pour ça il faut avoir des lieux. Alors là ils ont investi cette histoire de faire des lives filmés apparemment, c'est ça. Moi j'étais pas au courant, je découvre. C'est super déjà, mais ça serait bien effectivement que cette majeure histoire de pandémie sera terminée, il faut l'espérer, ou du moins que ça sera calmé, ils puissent avoir du public et pourquoi pas à terme faire la même chose mais avec ses propres compos.
Plus sur les compos, toi t'es bridé parce que toi en plus tu te déplaces, hein.
Oui, ouais.
Tu te déplaces énormément puisque même à travers l'Europe. Est-ce que à l'usure ça va pas freiner un petit peu cette possibilité de, parce que ça te macrote énormément de temps finalement.
Et oui.
Parce que le monde de la nuit, on le connaît, c'est ça finit à quoi? À 6h du matin.
Et oui, c'est ça.
On se réveille à 17h du matin. Donc ça t'empêche un petit peu de partir sur des projets où tu essaies quand même de t'astreindre à produire des trucs.
Le confinement, ça a été quelque chose de plutôt pas, enfin, je vais vraiment, vraiment exagérer, hein. Mais bénéfique parce que justement, j'ai pu me poser là-dessus. Et sortir 2-3 remixes où j'avais vraiment les idées il y a, je dirais même un an, où je ne pouvais pas les sortir parce que c'est pas que j'avais pas le temps. Attention, tu trouves toujours le temps de bosser. Mais une chose en entraînant une autre, tu laisses le projet de côté, tu te dis bon ben ce soir je mixe, j'ai pas envie, je vais me reposer. Demain c'est mon seul jour de repos, ben j'ai pas envie de mixer, j'ai pas envie de travailler. C'est quelque chose d'assez spécial. Il faut vraiment trouver l'envie. Et là le fait qu'on soit bloqué à la maison, ça m'a permis vraiment de me concentrer là-dessus. Mis à part les copains, mis à part la play, je prenais 2-3 jours de mon temps, de la semaine, et je bossais dessus, et on voit le côté bénéfique de la chose.
Tu appréhendes un peu la reprise?
j'appréhende énormément la reprise.
C'est une erreur de facteur, c'est-à-dire que les gens vont risquent de se lâcher quand ça va s'ouvrir, il risque d'y avoir un phénomène un peu de relâchement complet.
C'est ça,
les,
oui.
Les gens risquent ça, tu l'appréhendes un petit peu, j'ai de l'accumulation de soirées peut-être.
Mais je l'attends avec impatience déjà pour commencer, et même aussi avec un peu de peur parce que justement les gens ils vont vouloir se lâcher. Mais je sais que dans les 100 personnes qui vont être présentes, il y en a 20 qui vont se dire, bon alors, qu'est-ce qu'il a fait depuis ce temps? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il nous a préparé? Et si on arrive avec rien, si on arrive avec la même chose que 2020, 2019, là, ça va pas le faire, quoi.
Ouais, si t'envoies Blow de Paris, ça va pas le faire.
Voilà. il va rester les vrais DJ, ça va élaguer, mais les vrais DJ derrière, s'ils évoluent pas eux-mêmes, ben, on va rester des pseudo DJ et voilà, on va pas avancer.
Bon, eh bien écoutez, nous on vous souhaite bonne chance parce que cette pandémie finalement a l'impact surtout le milieu de la culture.
Et oui.
On va dire c'est le grand oublié un petit peu quand même de cette pandémie et des
non essentiels.
les non essentiels. Bon, moi je suis impacté dans un autre domaine, mais bon, c'est vrai que ça a été les oubliés pendant un an. Donc on espère pour vous que vous allez pouvoir vous produire. Parce que, je pense que c'est ça le cœur du truc et qui motive un petit peu ce chemin-là. On vous souhaite bonne chance.
Eh bien merci.
On sera là.
Merci beaucoup.
Et n'hésitez pas à communiquer vos dates, vos trucs. On essaiera nous un petit peu au fur et à mesure des émissions de faire votre promo.
Ah, c'est gentil. Cool.
Voilà les petits chéris.
Merci beaucoup.
Sur ce, je vous embrasse tous, chers auditeurs. Anto, merci de ta présence. On embrasse notre corélégionnaire qui est à la maison.
Il s'est bloqué le dos.
Un petit peu en souffrance. On lui fait un gros bisou. La semaine prochaine, pour le lundi de Pâques, je reçois Jésus. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus.
Ça fait plaisir.
Donc, j'espère qu'il sera en forme.
C'est peut-être l'annonce... de la libération.
Voilà. Donc, lundi prochain, 10h30, Jésus, je n'en dis pas plus. Chers auditeurs, passez une bonne journée.
Merci François. Salut, ciao. À bientôt.